Depuis plusieurs mois, les attaques contre l'enseignement catholique se multiplient. Votre invitée ce matin, Isabelle Duchet, apporte des réponses concrètes.
Le 2 avril, un rapport parlementaire sur le financement public de l'enseignement privé a notamment évoqué un manque de contrôle des établissements, un défaut de mixité sociale et un non-respect du contrat d'association avec l'État. Ces attaques cinglantes, lancées par le député de la majorité Christophe Weisberg et le député insoumis Paul Vanier, ont néanmoins trouvé un écho favorable puisque le dit rapport a été adopté. Que répond l'enseignement catholique dans notre région? Réponse avec Nicolas Sen, directeur de l'enseignement catholique des diocèses d'Aveyron et du Lot. Bonjour monsieur.
Bonjour Isabelle.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Présence. Nicolas Sen, est-ce que vous avez été surpris par une telle charge?
Alors, surpris non, parce que nous étions préparés, nous savions que ce rapport se préparait. Le secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme, a été auditionné à 2 reprises par les députés. Certaines même personnes de nos diocèses ont été auditionnées. Donc, nous savions que ce rapport allait sortir et il est dans un terrain qui, en tout état de cause, est un peu tendu et la bataille des moyens l'a montré cette année encore. Donc, la surprise, non. La force de la charge, oui. Vous disiez que ce rapport avait été voté par les deux députés. Je précise que, adopté et préparé par les deux députés, je précise que si les propositions de M. Vanier étaient. Toutes les propositions de M. Vanier n'ont pas été adoptées, puisque près de la moitié n'ont pas été adoptées par M. Weisberg. Donc,
Oui.
Il y a une. Comment dirais-je? Il y a un excès qui est insignifiant, comme tout ce qui est excessif, mais qui doit nous interroger quand même sur notre manière de porter notre mission et dont elle est connue et reconnue.
Alors, il y a 75% à peu près du budget de l'enseignement privé qui provient de fonds publics. À quoi servent précisément ces fonds, Nicolas Sen?
Alors, il faut distinguer deux choses. D'abord, les enseignants. Les enseignants dans nos établissements, en vertu de la loi Debré, dont tout le monde parle, mais qui est aujourd'hui dans le Code de l'éducation, est une loi de 1959 qui avait fixé les modalités de fonctionnement de l'enseignement privé. Je rappelle que, et c'est très clair dans la loi, nous sommes associés au service public de l'éducation. Donc on veut faire croire qu'on est à côté, etc., etc. Pas du tout. La loi Debré précise 2 points centraux. Le premier, c'est que les enseignants, en premier ou en second degré, sont pris en charge par l'État, c'est-à-dire que leur employeur, ce n'est pas nous, c'est l'État, le ministère. Et la deuxième, c'est que nous sommes tenus, dans le cadre du contrat d'association, à respecter les programmes. Une fois ces deux principes posés, tout ce qui est autour, c'est-à-dire la vie scolaire, c'est-à-dire le périscolaire, c'est-à-dire notre manière de nous organiser, relève de notre compétence propre. C'est ce qu'on appelle, alors avec un terme qui n'est pas facile non plus, le caractère propre. C'est-à-dire
Oui.
que c'est ce qui nous permet de poser notre couleur dans le paysage. Si on veut qu'on soit public et qu'on fasse la même chose que le public, Philippe Delorme le dit très justement, alors à quoi servons-nous? Nous sommes là pour apporter une tonalité différente.
Donc le budget sert à financer les enseignants. Qu'est-ce qui reste finalement à la charge de la famille? C'est ce que vous avez dit, c'est finalement
Eh
la
bien, le
passerelle et la cantine périscolaire.
l'immobilier. Tout
L'immobilier.
l'immobilier, puisque même les forfaits communaux ne financent pas l'immobilier. Après, il y a des dispositifs, là je parle vraiment en premier degré, parce que dans les collèges et dans les lycées, il y a des dispositifs un peu différents, notamment la loi Falloux, dont l'Aveyron est un des seuls départements à bénéficier de la région Occitanie, mais aussi
Qui
des forfaits
permet quoi
d'investissement.
exactement?
Alors la loi Falloux, c'est une loi qui date de 1888 et qui permet aux départements qui le souhaitent de financer des investissements dans un cadre très strict, hein, et très contraint dans les collèges pour les départements. À titre d'exemple, ça n'a rien à voir avec l'investissement public, hein, mais c'est important qu'elle y soit. Et puis il y a de l'aide à l'investissement pour les lycées qui est portée par les régions. Mais ça est très encadré par la loi et ce n'est pas une commune mesure entre ce qui est porté par le public. Donc le forfait des familles sert à financer le périscolaire, l'entretien, etc., etc. Et puis tous les personnels à côté, on parle pas beaucoup des organismes de gestion de l'enseignement catholique, les OGEC,
Les
qui sont des
OGEC.
associations portées par des bénévoles et qui financent l'ATSEM qui n'est pas prise en charge par l'État, qui finance la personne qui fait la cantine, qui finance le ménage, le chauffage, etc.
Oui, donc il reste quand même une grosse
Il reste
part
une
à la
grosse
charge des
part.
établissements catholiques.
Absolument.
Le rapport reproche pourtant un manque de contrôle des établissements privés sous contrat. Par qui pourraient être faits ces contrôles et sur quoi exactement?
Alors, le rapport d'abord pointe deux, trois ou quelques exceptions sur le territoire où il a pu y avoir ici ou là, on a eu le cas dans le Lot à un certain moment, quelques difficultés qui sont apparues, non pas dans une volonté de nuire, mais dans une imprécision. Moi, à chaque fois, ça arrive peu, mais c'est arrivé quand je suis rentré en fonction où avec le rectorat, nous avons travaillé main dans la main pour régler une situation qui était compliquée. Nous avons réglé les choses et nous prenons nos responsabilités quand nous en avons connaissance. Donc, jamais personne. Il peut y avoir des dysfonctionnements, mais si j'ose dire, pas que chez nous et dans le public aussi, nous les traitons dès que nous savons qu'il peut y avoir un dysfonctionnement. Ça, c'est le premier point. Philippe Delorme me dit très justement que nous sommes pour les contrôles. Nous, il n'y a aucune difficulté et on verra particulièrement sur nos territoires où, je le rappelle, nous avons un vaste maillage et où nous accueillons des élèves dans une grande mixité, on y reviendra peut-être tout à l'heure,
Oui.
nos établissements sont dans des situations économiques très fragiles. Le contrôle, j'ai envie de dire, il peut se faire, nous sommes transparents et ouverts et on verra partout que globalement, on est plutôt économe des deniers. Et je rappelle que, un élève de l'enseignement privé coûte 40% moins cher qu'un élève d'enseignement public, quand on ajoute tous les investissements. Donc, l'État, à travers nous, économise plus de 10 milliards par an. Donc, on peut toujours dire que l'herbe, c'est un rural qui vous parle, on peut toujours dire que l'herbe du pré du voisin est plus verte que la sienne, mais il faut d'abord s'appliquer à bien travailler son champ, et puis ensuite on regarde à côté. Mais ce procès d'intention qui nous est fait est assez insupportable, surtout quand on constate sur le territoire le formidable travail qui est fait par nos
Eh
directeurs,
oui,
par nos enseignants, par nos bénévoles.
parce qu'il n'est pas justifié. Alors, dans son discours de clôture de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France le 22 mars à Lourdes, Monseigneur de Moulin-Beaufort a rappelé l'importance de l'enseignement catholique sous Coutras, prévu par la loi Debré de 1959 que vous évoquiez. Il précisait « La République manifestait ainsi qu'elle promouvait la liberté des citoyens et encourageait leurs initiatives, notamment pour mettre en œuvre la liberté d'enseignement et la liberté de choix des familles. » Ces deux libertés trouvent leur fondement dans le contrat d'association, qu'il y ait un établissement privé à l'État. Que permet-il exactement, Nicolas Sen?
J'ajoute je n'oserais pas compléter ce que dit Monsieur de Moulin-Beaufort, je n'aurais pas cette autre prudence, mais je crois et je dis souvent que notre enseignement catholique, la liberté d'enseignement, est la garantie de la démocratie. En Chine, en Russie, on n'a pas le choix du libre enseignement. Donc, c'est un pilier démocratique et c'est un des piliers qui garantit la démocratie. Ça me paraît essentiel de le souligner. Quand on parle de libre choix, ce n'est pas une fois de plus dans les programmes que nous devons appliquer, mais c'est dans tout ce qui est autour du programme,
Dans la méthode, alors,
c'est-à-dire
l'aspect pédagogique?
la méthode, l'aspect pédagogique, la manière dont nous voulons éduquer dans nos établissements, cœur, âme et corps, la totalité de l'être. On n'a pas en face de nous un élève, on a en face de nous un
Une
individu
personne.
qu'on doit faire grandir, une personne qu'on accompagne avec sa famille vers le mieux qu'elle peut. Et le mieux qu'elle peut, c'est tous les chemins que nous offrons. Donc c'est cette prise en charge globale qui me semble essentielle et déterminante. Et pourquoi? Parce qu'elle se fonde bien sûr sur le Christ et l'Évangile qui nous a regardé tout entier et pris dans sa globalité. Le Christ dans l'Évangile ne série pas les choses. Il regarde l'individu et l'être en totalité et la personne. Et c'est ce qui est notre fondement.
Ce qui crispe aussi, c'est peut-être cette question de la catéchèse, parce que dans cette loi de 1959, en fait, elle est proposée, la catéchèse, dans l'enseignement catholique. Et est-ce que c'est ça qui crispe?
Alors, elle crispe parce que les jeunes, nos contempteurs, si j'ose dire, ne savent pas comment les choses fonctionnent. Vous savez, un député, il n'y a pas très longtemps, a fait une sortie sur les sermons dans les églises qui seraient en latin. Il y a
Oui.
longtemps qu'il n'a pas dû y aller, puisque depuis le Concile de Poitiers, c'est le prof d'histoire qui vous parle, là, 830, je crois, il est dit qu'on doit parler en langue vernaculaire. Donc, une fois de plus, c'est une méconnaissance. La catéchèse est proposée, elle n'est pas imposée. Et elle est proposée en dehors du volume d'enseignement, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où elle est proposée, je pense à Cahors par exemple, où elle est proposée entre 12h45 et 13h30. Il y a des endroits où elle est proposée entre 16 et 17h, etc. Donc elle est proposée, jamais imposée.
En dehors des
Il
heures
y a
de cours, elle
aussi,
n'est pas sur les heures de cours.
en
Oui.
plus des heures de cours dues par l'État, donc, puisque les enseignants doivent 18 heures en premier degré et 27 heures en second, 27 heures en second et 18 heures en premier, elle est proposée en plus et elle peut donner lieu aussi, je pense notamment à certains collèges, où c'est une heure d'éducation religieuse qui est aussi une ouverture au monde.
Une
Ce qu'on constate aujourd'hui,
culture chrétienne.
exactement, une culture chrétienne, mais qui parle aussi de beaucoup d'autres sujets, pour ceux qui ne voudraient pas faire de la catéchèse pure, ce qu'on constate aujourd'hui, et ce rapport le montre bien, c'est une méconnaissance complète. Nous sommes face à une génération qui est une génération qui a reçu la rupture en héritage, c'est pas moi qui le dis, hein. Et donc, si on se connaissait mieux, je pense qu'on n'en serait pas de telles extrémités. Et le monde n'irait pas mieux, et l'enseignement public n'irait pas mieux si l'enseignement catholique n'était pas là, contrairement à ce que le laisse entendre M. Vanier. Parce qu'au fond, c'est ça, hein, derrière. Donc, plutôt que d'essayer de On entend la critique et on entend l'ouverture et on entend ce que nous devons progresser. On est tous perfectibles. Mais arrêtons et continuons à travailler dans l'esprit de cette loi Debré qui est vraiment complémentaire.
Et quelle pourrait être la marge de manœuvre des établissements catholiques pour la créativité pédagogique dans le cadre de ce contrat d'association?
Alors après, tout est possible. Il faut que on est quand même dans un système où un établissement qui voudrait porter un projet autonome ou indépendant devrait quand même s'assurer qu'il rentre dans le cadre, si j'ose dire. Et c'est un peu un garde-fou. Bien sûr qu'il y a de la liberté, mais on peut pas demain décider qu'on fera que du chinois à l'école ou je n'en sais rien. Donc, il faut que le projet pédagogique éducatif qui découle du projet pastoral ait un sens, à la fois avec deux piliers. Le pilier du respect des textes réglementaires et le pilier de notre charisme propre et de ce que veulent porter les établissements, les diocèses, les évêques dans leurs établissements catholiques, que ce soit avec les congrégations ou directement en diocèse.
Rappelons que le caractère propre permet aussi d'assurer à tous les élèves le respect de la liberté de conscience, mais aussi de développer les spécificités. Et quel est précisément son périmètre?
De la laïcité, vous voulez dire?
Oui.
Il s'applique à l'ensemble de l'établissement, c'est-à-dire que la laïcité, ce n'est pas le laïcisme. La laïcité, c'est le respect de tous, mais c'est sans stigmatiser aucun. Moi, sur certains établissements hors académie, grâce à Dieu, il m'est arrivé de voir des situations qui, en voulant être très laïque et respectueuse, tombaient dans le laïcisme. On a le droit de porter une croix à l'école, on a le droit d'avoir une croix dans nos écoles ou une icône, mais on ne doit pas en faire un absolu et on doit respecter ceux qui croient autre chose. Mais nous croyons ça. Et donc, puisque nous le croyons, nous le disons, nous le proposons, c'est bien l'annonce de la foi que nous devons faire aussi, le kérigme, et pour autant dans le respect de la croyance et de tous.
Alors, la quatrième charge des députés Vesberg et Vanier à propos de l'enseignement privé, c'est la question du non-respect de la mixité. C'est d'ailleurs ce qu'avait soulevé la Cour des comptes dans son rapport de juin 2023, estimant que l'enseignement privé, je la cite, apporte une contribution indiscutable à l'offre de formation, mais qu'il doit être davantage mobilisé au service de la performance éducative et de la mixité sociale. Que répondez-vous, Nicolas Sen?
Alors, il y a deux réalités. Il y a des endroits où historiquement nous sommes implantés et où à l'époque c'était des endroits qui n'étaient pas des endroits les plus favorisés. J'ai beaucoup travaillé avec la Fondation d'Auteuil et quand la Fondation d'Auteuil est allée à Auteuil au 19e siècle, personne ne voulait aller de l'autre côté de la Seine et c'est pour ça que la Fondation s'est mise là. Donc, la
En plein
sociologie des
16e
quartiers.
arrondissement.
Ah, c'est ça, mais quand ça a été acquis, on a dit ben, j'ai quelques jardins de l'autre côté de la Seine, allez-y. Donc c'est bien pour montrer que la sociologie des quartiers évolue quand on s'est trouvé en périphérie des grandes villes, parce que personne ne voulait y aller pour créer des établissements souvent au 19e, ce n'étaient pas les endroits les plus favorisés. Aujourd'hui, bon, c'est des endroits qui le sont. Donc il y a une réalité urbaine qui fait que, effectivement, dans certains endroits, la mixité n'est pas est à accompagner, est à poursuivre. Si je prends l'exemple de l'Aveyron, dans l'Aveyron, compte tenu de nos 100 établissements sur le territoire, nous avons un indice de positionnement social, c'est-à-dire c'est le calcul mathématique c'est sur cette base que s'appuie la mixité, hein, c'est en fonction de la sociologie de la famille, etc., qui est calculé, qui est inférieur dans nos établissements privés que dans les établissements publics. Il est d'abord assez faible, il est autour de 103, mais chez nous, il est à 102. C'est-à-dire que l'Aveyron est bien l'exemple que la mixité existe sur le territoire et que toutes les catégories socioprofessionnelles, que toutes les familles se trouvent chez nous. Et j'ajoute que nous avons, pardon de parler de l'Aveyron, mais il y en a d'autres sur le territoire, sur l'Académie, plus de 20 unités d'inclusion, etc. Donc nous sommes attentifs à la différence. Nous avons les moyens dans les IME pour accompagner les jeunes dans le handicap, etc., etc. Donc cette querelle de la mixité Elle s'entend. Il y a des endroits où elle doit être creusée. C'est dans ce sens que le secrétaire général de l'enseignement catholique et Pape Ndiaye, l'antépénultième ministre de l'Éducation, avaient signé un protocole pour nous encourager à cette mixité. Avec la mairie de Rodez, nous avons également signé un protocole. Donc, sur nos territoires, c'est une réalité très ponctuelle, mais nous sommes ouverts à tous. Et en tout état de cause, le moyen financier n'est jamais un motif de refus d'inscription. Nulle part. Il y a toujours des solutions que l'on arrive à trouver pour que le moyen financier ne soit pas une exclusion. Après que les parents s'autocensurent, c'est autre chose. Mais le moyen financier n'est pas un motif d'exclusion.
Voilà, un bon mot pour conclure cet entretien. Merci beaucoup Nicolas Sen, directeur de l'enseignement catholique des diocèses d'Aveyron et du Lot. Et puis évidemment, nous allons suivre avec attention les actions du gouvernement qui vont renforcer le contrôle des établissements. Vous n'y êtes pas opposé et donc nous regarderons ça avec attention. Merci beaucoup.
Merci Isabelle, bonne journée.